Pages arrachées à Nicolas Bouvier. La route vers l'Orient. Texte choisi et présenté par Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Igor Menjiski, Arnaud Bédoué, Sarah Caponi. Premier épisode, Belgrade, Tabriz.
C'est le voyage, le vivre ailleurs, la précarité d'une vie longtemps itinérante qui m'ont conduit à murmurer des histoires. Il m'a fallu apprendre à découper et coudre le cuir du langage et m'échiner gaiement à l'établi comme l'apprenti cordonnier qui fait sa première paire d'escarpins pour une favorite ou de bottes pour le grand chambellan. Sans cet apprentissage de l'état nomade, je n'aurais peut-être rien écrit. Si je l'ai fait, c'était pour sauver de l'oubli ce nuage laineux que j'avais vu aller son ombre sur le flanc d'une montagne, le champ ébouriffé d'un coq, un ray de soleil sur un samovar, une strophe égrenée par un derviche à l'ombre d'un camion en panne ou ce panache de fumée au-dessus d'un volcan javanais. De retour en Europe ou lors des longs bivouacs hivernaux qui parfois ponctuent un voyage, ces images se bousculaient dans ma tête, fortes de leur fraîcheur native, et demandaient impérieusement la parole.
Juin 1953. Nicolas Bouvier, après avoir quitté Genève, sa ville natale, commence un voyage de Belgrade vers l'Orient, en Fiat Topolino, avec Thierry Vernet. Nicolas a 24 ans, Thierry 26. Ils vont parcourir ensemble cette longue route à travers la Yougoslavie, la Turquie, l'Iran et le Pakistan, où ils arriveront au printemps 1954. Thierry peint, Nicolas prend des notes et commence à rédiger un journal de voyage. Ce sera L'usage du monde, publié en 1963.
J'ai examiné la carte. C'était une petite ville dans un cirque de montagne, au cœur du pays bosniaque. De là, Thierry comptait remonter vers Belgrade, où l'association des peintres serbes l'invitait à exposer. Je devais l'y rejoindre dans les derniers jours de juillet, avec le bagage et la vieille Fiat que nous avions retapée, pour continuer vers la Turquie, l'Iran, l'Inde, plus loin peut-être. Nous avions 2 ans devant nous, et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons, et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. J'étais dans un café de la banlieue de Zagreb, pas pressé, un vin blanc siphon devant moi. Je regardais tomber le soir, se vider une usine, passer un enterrement, pieds nus, fichu noir et croix de laiton. Deux jets se querellaient dans le feuillage d'un tilleul. Couvert de poussière, un piment à demi rongé dans la main droite, j'écoutais au fond de moi la journée s'effondrer joyeusement comme une falaise. Je m'étirais, enfouissant l'air par litres. Je pensais aux 9 vies proverbiales du chat. J'avais bien l'impression d'entrer dans la deuxième.
Nicolas Bouvier naît le 6 mars 1929 au Grand Lancy, près de Genève. Issu d'une famille bourgeoise cultivée et rigoriste, il est le dernier né d'une famille de 3 enfants. Son père, Auguste Bouvier, spécialiste de la littérature de la guerre de 30 ans, sera directeur de la bibliothèque publique et universitaire de Genève. En 1946, juste après la guerre et la réouverture des frontières, Nicolas effectue son premier voyage. Il se rend en Bourgogne à bicyclette. Il n'a que 17 ans. Puis ce sera l'Italie, la Finlande, le Sahara algérien. En 1951, il effectue son premier voyage avec Thierry Vernet. L'Italie encore. Puis la Yougoslavie, la Grèce et Istanbul. Il a déjà publié quelques articles et avec Thierry Vernet, un premier opuscule, tiré à 30 exemplaires.
J'avais fait la connaissance de Thierry quand il avait 14 ans et moi 11. C'était la première année du collège. Le professeur nous avait assis côte à côte parce que nous étions tous deux bons en français. Et très vite est née une sorte de Walfer-Wandschaft, comme on disait à l'époque de Goethe. Il est devenu pour moi un jumeau psychologique, un compagnon intemporel. C'est l'ami avec lequel j'ai partagé le plus de choses. J'ai commencé par voyager seul, et puis je l'ai emmené.
Belgrade. Minuit sonnait quand j'arrêtais la voiture devant le café Majestic. Un silence aimable régnait sur la rue encore chaude. À travers les rideaux crochetés, j'observais Thierry assis à l'intérieur. Il avait dessiné sur la nappe une citrouille grandeur nature qu'il remplissait, pour tuer le temps, de pépins minuscules. Le coiffeur n'avait pas dû le voir souvent. Avec ses ailerons sur les oreilles et ses petits yeux bleus, il avait l'air d'un jeune requin folâtre et harassé. Je restais longtemps le nez contre la vitre avant de rejoindre sa table. On trinqua. J'étais heureux de voir ce vieux projet prendre forme. Lui, d'être rejoint. Il avait eu du mal à s'arracher. Il avait fait sans entraînement des marches trop longues et la fatigue l'assombrissait. En traversant, les pieds blessés et la sueur au front, ces campagnes peuplées de paysans incompréhensibles, il remettait tout en question. Cette entreprise lui paraissait absurde, d'un romantisme idiot. En Slovénie, un aubergiste remarquant sa mine défaite et son sac trop lourd n'avait rien arrangé en disant gentiment, en allemand, « Je ne suis pas fou, moi, je reste à la maison. » Le mois passé, ensuite à dessiner en Bosnie, l'avait remis d'aplomb. Lorsqu'il avait débarqué à Belgrade, ses dessins sous le bras, les peintres de l'association serbe l'avaient reçu comme un frère et lui avaient déniché en banlieue un atelier vide où nous pourrions loger à deux. On reprit la voiture. C'était bien en dehors de la ville. Après avoir franchi le pont de la Save, il fallait suivre deux ornières qui longeaient les berges jusqu'à un lopin envahi de chardons où s'élevaient quelques pavillons délabrés. Thierry me fit arrêter devant le plus grand. En silence, on coltina le bagage dans un escalier obscur. Une odeur de térébenthine et de poussière prenait à la gorge. La chaleur était étouffante. Un ronflement puissant s'échappait des portes entrouvertes et résonnait sur le palier. Au centre d'une pièce immense et nue, Thierry s'était installé, en clochard méthodique, sur une portion de plancher balayé à bonne distance des carreaux brisés. Un sommier rouillé, son matériel de peinture, la lampe à pétrole et, posé à côté du primus sur une feuille d'érable, une pastèque et un fromage de chèvre. La lessive du jour séchait sur une corde tendue. C'était frugal, mais si naturel que j'avais l'impression qu'il m'attendait là depuis des années. J'étendis mon sac sur le sol et me couchai tout habillé. La ciguë et l'ombelle montaient jusqu'aux croisées ouvertes sur le ciel d'été. Les étoiles étaient très brillantes. Fainéantée dans un monde neuf est la plus absorbante des occupations. À 5h du matin, le soleil d'août nous trouait les paupières et nous allions nous baigner dans la Save de l'autre côté du pont de Saïmicht. Sable doux aux pieds, quelques vaches dans les vernes, une gamine en fichu qui gardait des oisons, et, dans un trou d'obus, un mendiant endormi recouvert de journaux. Le jour levé, les mariniers des chalands et les gens de la zone y venaient laver leur linge. En bonne compagnie, nous frottions nos chemises, accroupis dans l'eau terreuse, et tout le long de la berge, face à la ville endormie, ce n'était qu'essorage, bruit de brosse et chansons soupirées pendant que de grandes banquises de mousse descendaient au fil de l'eau vers la Bulgarie. L'été, Belgrade est une ville matinale. À 6 heures, l'arroseuse municipale balait le crottin des charrettes maraîchères et les volets de bois claquent devant les boutiques. À 7, tous les bistrots sont bondés. Belgrade est nourrie d'une magie rustique. Pourtant, elle n'a rien du village, mais un influx campagnard la traverse et lui donne du mystère. On y imagine volontiers le diable sous les traits d'un maquignon cossu ou d'un sommelier à la veste râpée, s'épuisant à tisser des trames ou à tendre des pièges constamment déjoués par la formidable candeur yougoslave. Il y a des villes trop pressées par l'histoire pour soigner leur présentation. Lorsqu'il avait été promu capitale yougoslave, le grand bourg fortifié s'était élargi par rue entière dans ce style administratif qui déjà n'est plus moderne et semble ne jamais devoir être ancien. Grand poste, parlement, avenue plantée d'acacias et quartier résidentiel où les villas des premiers députés avaient poussé sur un sol arrosé de pots de vin. Tout était allé trop vite pour que Belgrade ait pu pourvoir déjà aux 100 détails qui font la finesse de la vie urbaine. Les rues paraissaient occupées plutôt qu'habitées. La trame des incidents, des propos, des rencontres était rudimentaire. Aucun de ces recoins subtils, ombreux, que toute ville véritable offre à l'amour ou à la méditation. L'article soigné avait disparu avec la clientèle bourgeoise. Les vitrines offraient des marchandises à peine finies. Souliers déversés comme des bûches, pains de savon noir, clous au kilo ou poudre de toilette empaquetée comme de l'engrais.
La mobilité sociale du voyageur lui rend l'objectivité plus facile. Chaque jour, nous quittions notre banlieue pour le centre-ville. Ces excursions nous permettaient, pour la première fois, de porter un jugement serein sur ce milieu dont il fallait s'éloigner pour distinguer les contours. Ses habitudes verbales, ses ridicules et son humour, sa douceur et, lorsqu'on avait montré patte blanche, son naturel, fleur rare dans tous les terrains. Son sommeil aussi, et cette incuriosité qu'engendre une vie déjà meublée jusque dans ses moindres recoins par les générations précédentes, plus avides et plus inventives. Un monde de bon goût, souvent de bon vouloir, mais essentiellement consommateur, où les vertus du cœur étaient certes entretenues, mais comme une argenterie de famille qu'on réserve aux grandes occasions. Au retour, nous retrouvions notre baraque chauffée à blanc par le soleil de la journée. En poussant la porte, nous retouchions terre. Le silence, l'espace, peu d'objets, et qui nous tenaient tous à cœur. La vertu d'un voyage, c'est de purger la vie avant de la garnir.
Après quelques semaines passées à Belgrade, à tenter de vendre quelques tableaux ou d'écrire quelques articles, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet prennent tous les deux la route pour la Macédoine, la Grèce, traversent la Turquie d'une traite, Istanbul, Trébizonde, Erzurum, entrent en Iran par l'Azerbaïdjan, s'arrêtent à Tabriz.
La vie nomade est une chose surprenante. On fait 1500 km en 2 semaines, toute l'Anatolie en coup de vent. Un soir, on atteint une ville déjà obscure où de minces balcons à colonnes et quelques dindons frileux vous font signe. On y boit avec 2 soldats, un maître d'école, un médecin apatride qui vous parle allemand. On bâille, on s'étire, on s'endort. Dans la nuit, la neige tombe, couvre les toits, étouffe les cris, coupe les routes. Et on reste 6 mois à Tabriz, Azerbaïdjan. Première soirée dans la cuisine des locataires. Une veuve, infirmière à l'hôpital missionnaire, qui savait un peu d'anglais, sa vieille mère et deux gamins aux yeux de chouka, lavés jusqu'au fond des oreilles, qui faisaient leur devoir sous la lampe à pétrole. Concombre au sel, noix verte confite, galettes et vin blanc au goût de fumée. Les voisins venaient s'asseoir un moment dans la cuisine pour faire connaissance et examiner curieusement ces chrétiens étrangers échappés d'un monde plus doux. Petits négociants engoncés dans des tricots sombres, aux voix étouffées, aux visages gonflés et anxieux, qui répondaient à toutes nos questions sur la ville avec le sourire protecteur de ceux qui savent souffrir. Notre ruelle formait la frontière du quartier arménien. Au mauvais bout, on trouvait quelques familles turques et une petite cour dont la porte fermée laissait parfois filtrer la perfide odeur de l'opium. « Bad people », disait la veuve en baissant pudiquement les yeux. Notre installation était parfaite. Deux chambres, deux boyaux voûtés plutôt, blanchis à la chaux, qui donnaient sur la cour où un grenadier et une touffe de tagettes luttaient contre les premières gelées. Les murs étaient creusés de niches pour les icônes, le samovar et les lampes à pétrole. Dans le bûcher minuscule qui séparait nos chambres, logeaient des rats couleur de lune. Nous avions chacun une table, une chaise et un petit fourneau de tôle gaufré comme du bricelet. Le loyer était payé pour 6 mois. Nous étions parés. Thierry tendait des toiles, j'avais ramené une rame de papier blanc du bazar et décrassé ma machine à écrire. Jamais le travail n'est si séduisant que lorsqu'on est sur le point de s'y mettre. On le plantait donc là, pour découvrir la ville. Large, terreuse, à l'abandon, Tabriz se ressentait de ses infortunes passées. Excepté les avenues principales, c'était un réseau de venelles bordées de murs de terre fauve qui débouchaient sur des ronds-points ombrés d'un platane sous lequel les vieux venaient le soir fumer et bavarder. Une foule rude et engourdie défilait dans les artères du bazar. Manteaux rapiécés, lugubres casquettes, soldats couleur de terre et femmes ensevelies dans leurs tchadors à fleurettes. Des fiacres silencieux, des troupeaux d'ânes, de moutons, de dindons coulaient à travers les places. Les samovars fumaient sur le seuil des échoppes. Les milans dérivaient au large des toits dans un ciel toujours gris. Les peupliers perdaient leurs dernières feuilles. C'était patibulaire, mais fascinant. Il y avait peu d'étrangers dans la ville. C'est étonnant, un étranger. À travers le jardin, par-dessus le mur des courettes, du haut des toits en terrasse, nos voisins arméniens nous observaient, gentiment. Pendant nos absences, il arrivait qu'un balai mystérieux nettoie notre maison ou que des mains invisibles posent sur notre table un bol de soupe amère. Voici un siècle. Les Arméniens avaient été près d'1 million dans cette province. C'était à peine s'il en restait 15 000 à s'accrocher dans la ville. Ils vivaient entre eux, s'épaulaient, se réunissaient chaque soir dans les sombres cuisines de l'Arménistan, autour de la lampe à pétrole, pour débattre les affaires de la communauté ou déterminer soigneusement leur stratégie au bazar. C'était un petit monde chaud, noir vêtu, laborieux et secret, avec un respect dévot de son prestigieux passé et une infinie résistance au malheur. Parfois, une famille réussissait et montait vers Téhéran tenter sa chance. C'était l'exception. Et pour ceux d'ici, la vie était dure, mais ils savaient l'aménager avec l'expérience des vieilles races et lui conserver sa saveur. C'est Zemestan, l'hiver. Sur le plateau d'Azerbaïdjan, il vient tard, mais il vient bien. Un soir, les étoiles paraissent toutes proches dans un ciel royal et les gens du quartier sortent leurs corsis. Dans la nuit, le thermomètre tombe à moins 30 degrés. Le lendemain, l'hiver est dans la ville. Un vent coupant descend du nord en rafale, brasse la neige et glace les champs. Les loups s'enhardissent et les sans-travail des faubourgs s'organisent en bande pour détrousser les paysans. Les barbes et les moustaches se givrent, les samovars fument, les mains restent au fond des poches. On n'a plus que trois mots en tête. Thé, charbon, vodka. Sur la porte de notre cour, les gamins arméniens ont dessiné à la craie une grande garce beauté, aux innombrables jupes, qui porte un petit soleil à l'endroit du bas-ventre. Tout cela ne manque pas de poésie, aussi longtemps qu'on peut bourrer son poil et payer le marchand de bois. Dans une ville qui connaît la faim, le ventre n'oublie jamais ses droits et la nourriture est une fête. Les jours fastes, les commères du quartier se levaient matin pour éplucher, piler, désosser, touiller, hacher, pétrir, souffler la braise, et les minces vapeurs qui montaient des cours trahissaient l'esturgeon à l'étouffée, le poulet au jus de citron, grillé sur charbon de bois, ou cette grosse boule de hachis remplie de noix, d'herbettes, de jaune d'œuf et cuite dans le safran qu'on appelle kefté. La cuisine turque est la plus substantielle du monde. L'iranienne, d'une subtile simplicité. L'Arménistan, inégalable dans le confit et l'aigre doux. Nous, nous mangeons surtout du pain. Un pain merveilleux. Au point du jour, l'odeur des fours venait à travers la neige nous flatter les narines. Celle des miches arméniennes au sésame, chaudes comme des tisons. Celle du pain sanjak, qui fait tourner la tête. Celle du pain lavache, en fines feuilles semées de brûlures. Il n'y a vraiment qu'un pays très ancien pour placer ainsi son luxe dans les choses les plus quotidiennes. On sentait bien 30 générations et quelques dynasties alignées derrière ce pain-là. Avec ce pain, du thé, des oignons, du fromage de brebis, une poignée de cigarettes iraniennes et les longs loisirs de l'hiver, nous étions du bon côté de la vie. L'hiver nous avait d'ailleurs enseigné la patience. Il pesait encore sur la ville, mais dans le sud, il commençait à lâcher prise. Là-bas, le vent chaud de Syrie qui sautait les montagnes faisait fondre la neige et grossissait les ruisseaux du Kurdistan. Tous les toits dégorgés, dans le caniveau, sous une croûte de neige noire, on percevait un ruissellement cordial et précipité. Le soleil nous chauffait une joue. Les peupliers s'étiraient en craquant contre un ciel redevenu léger. Profonde et lente poussée dans les têtes, les os et les cœurs. Les projets prenaient forme. C'était Bahar, le printemps.
Pour les vagabonds de l'écriture, voyager s'est retrouvé par déracinement, disponibilité, risque, dénuement, l'accès à ces lieux privilégiés où les choses les plus humbles retrouvent leur existence plénière et souveraine.
C'était Pages arrachées à Nicolas Bouvier, La route vers l'Orient. Texte choisi et présenté par Laurent Martin. Premier épisode. Avec Igor Menjiski, Arnaud Bédoué, Sarah Caponi. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Extrait de L'usage du monde, aux éditions La Découverte. Routes et déroutes aux éditions Métropolis et Réflexions sur l'espace et l'écriture avec l'aimable autorisation d'Eliane Bouvier.